Vous écoutez
RMC.
Un excellent réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, il est 8h01.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une question ce matin, où est Manon ? Voilà un mois qu'une agricultrice de la région nantaise a disparu. Son compagnon vient d'être arrêté en Algérie et sa mère témoigne, vous allez l'entendre ce matin sur RMC. Les géants du pétrole profitent-ils de la crise au Moyen-Orient ? Ils annoncent leurs résultats pour le début d'année avec sans surprise des bénéfices XXL. Et a-t-on assisté au plus grand match de foot de tous les temps hier soir ? Vous allez voir que la presse européenne se le demande au lendemain de la victoire du PSG 5-4 contre le Bayern dans une demi-finale de Ligue des Champions qui va rester dans les mémoires.
Et on va commencer par ce témoignage bouleversant ce matin sur RMC.
Oui, vous allez entendre la mère donc de Manon Rolando, cette agricultrice de 31 ans installée dans la région nantaise qui ne donne plus aucun signe de vie depuis un mois. Ses proches ont alerté les autorités début avril et la veille, c'est ce qui est troublant, son compagnon de 41 ans s'était envolé pour l'Algérie avec leur petite fille de 15 mois. Le compagnon a été arrêté en début de semaine en compagnie de la fillette, mais donc pas de Manon. D'où ce témoignage et même cet appel lancé par sa maman ce matin sur RMC.
Maintenant, j'espère que Karim va dire la vérité, va dire ce qui s'est passé, va répondre à toutes mes questions. Hein, parce que l'âme de ma petite, je ne sais pas si elle est au ciel, je ne sais pas si elle est en détresse, j'en peux plus. Donc peut-être que Manon m'entend. Hein, ma chérie, garde ta force, tu sais, on t'aime. Et puis on t'aidera à remonter ça. Hein. Moi, j'en peux plus, mais je garde ma force et puis je la garde pour Manon, pour Inaya. Et puis que justice soit faite.
Témoignage recueilli par notre correspondant dans le nord-ouest de la France, Martin Lange, donc au micro d'RMC. C'est lundi que le compagnon de Manon a été arrêté en Algérie. On ne sait pas encore s'il sera extradé vers la France, mais il est le suspect numéro un dans cette affaire dans laquelle il clame son innocence. Vous allez l'entendre, sa voix a été modifiée et donc c'est troublant. Hein, Maxime Clier-Ruza du service police-justice à RMC. Il a pris la parole dimanche, la veille de son interpellation, dans un live diffusé sur les réseaux sociaux.
Pendant près d'une heure, il alterne entre affirmations et incohérences au sujet de sa compagne, mais tout en répondant aux questions des internautes, il l'affirme, Manon Rolando est toujours en vie.
Elle voulait disparaître. Je peux pas l'empêcher, non?
Et précise pourquoi il ne rentre pas en France avec sa fille.
Je suis pas sûr que je rentrerai avec ma fille, peut-être. Parce que je sais qu'il va être placé en garde à vue, passer des petits vacances en prison.
Mais selon nos informations, plusieurs éléments permettent d'écarter la piste de la disparition volontaire, à commencer par la fuite du suspect vers l'Algérie, la veille du signalement de la disparition de sa compagne, Manon Rolando, qui avait rendez-vous avec une association d'aide aux victimes de violences conjugales alors que les disputes entre les deux amoureux devenaient fréquentes. Rendez-vous manqué par la mère de famille qui s'est volatilisée juste avant. Enfin, les enquêteurs s'interrogent dans des SMS. La trentenaire explique à ses proches pourquoi elle ne donne plus de nouvelles. Problème, la femme avait déjà disparu sans son téléphone. Son compagnon, lui, était encore à leur domicile.
Vous venez d'entendre sur RMC la haute commissaire à l'enfance Sarah El-Haïry qui appelle à ne pas être naïf au lendemain de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris sur la réouverture du site Coco sous une nouvelle appellation, mais plateforme qui est mise en cause dans des milliers d'affaires de viol, agressions sexuelles ou encore d'homophobie. Tiens, ça c'est un chiffre qui va assurément faire réagir ce matin. Le groupe Total doit annoncer là dans les toutes prochaines minutes ses résultats pour le premier trimestre de l'année en plein conflit au Moyen-Orient dans la foulée de ceux de son concurrent BP qui annonçait hier un bénéfice doublé par rapport à la même période l'année dernière, profitant en fait des prix du pétrole qui continue de grimper ce matin à plus de $111 pour le baril de Brent. Voilà ce qu'on dit, comment l'explique en tout cas le spécialiste de l'énergie Jean-Pierre Favennec.
Quand le prix du brut est à $120 au lieu de 60, bah évidemment les marges des compagnies pétrolières sont beaucoup plus élevées. Cette rente étant partagée entre l'État et la compagnie, mais la compagnie en garde une bonne partie pour elle. Donc ça fait des bénéfices très très considérables. Et on sait que Total a gagné environ $1 milliard en pariant sur l'augmentation du prix. Total a anticipé fin février, donc Total a acheté du pétrole à un moment où le prix était bas et a pu avoir le potentiel de le revendre quelques semaines plus tard, quand le prix du pétrole est très élevé.
On reparle du travail le 1er mai. Pourquoi ? Parce que le gouvernement va présenter ce matin au Conseil des ministres son projet de loi pour autoriser boulangers et fleuristes, mais seulement eux, à faire travailler leurs salariés ce jour-là, mais seulement à partir de l'année prochaine, donc pas pour ce 1er mai, vendredi. En attendant, ce sont trois associations, dont Yuka et Foodwatch, qui lancent une pétition pour demander au gouvernement de mieux encadrer la publicité et même tout le marketing autour des produits ultra transformés, qui représentent quand même jusqu'à 60% de l'offre alimentaire en France, comme nous l'explique Antonin Audion.
Savoir plus facilement si un produit est ultra transformé, c'est ce que demande Julie Chapon, cofondatrice de l'application Yuka.
Un étiquetage obligatoire en face avant des emballages. Un bandeau noir au Nutri-Score pour tous les produits qui sont ultra transformés.
Car il est parfois difficile pour le consommateur de savoir ce qu'est un produit ultra transformé.
C'est des produits qui contiennent des ingrédients qu'on n'aurait pas dans sa cuisine. Par exemple, dans sa cuisine, on va utiliser du sucre pour faire un gâteau. Dans un produit ultra transformé, on va utiliser du sirop de glucose fructose. C'est important pour les consommateurs de pouvoir les identifier parce que c'est pas si évident. Parfois, il y a des produits très similaires. Et puis, en fait, quand on regarde dans le détail, il y en a un qui va être ultra transformé et pas l'autre.
D'autres pays ont déjà pris des mesures contre ces produits qui pourraient inspirer une réglementation française, comme l'explique la députée écologiste Sabrina Sebaï.
En Angleterre, ils ont décidé d'encadrer la publicité. Donc, de 6h à 21h, il n'y a plus de publicité des aliments ultra transformés en direction de la jeunesse. Parce qu'on sait que c'est justement par le biais du marketing, par le biais finalement de toutes ces publicités, qu'on incite les plus jeunes à consommer ces aliments ultra transformés qui provoquent de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des diabètes de type 2.
Le mois dernier, un premier pas a été franchi avec l'interdiction des sucres ajoutés dans l'alimentation destinée aux enfants de moins de 3 ans.
Il est 8h07, on est au lendemain ce matin de la victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 4 contre le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions, et la presse espagnole se demande ce matin si nous n'avons pas assisté hier soir au plus grand match tout simplement de tous les temps. C'était assurément le plus grand match européen, disent les Anglais, le match de l'année selon les Italiens, comme si le score était anecdotique si on en croit l'entraîneur parisien Luis Enrique.
On a mérité gagner ce match, on a mérité faire match nul et on a mérité aussi de perdre le match.
Jean-Louis Tour, c'est vous qui avez commenté ce match incroyable hier soir donc sur RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin, et qu'on soit supporter du PSG ou pas, on a hâte d'être mercredi prochain pour le match retour. Mais alors finalement, il y aura un seul but d'avance pour les Parisiens.
Oui, et dans la tête des joueurs, comme dans celle de Vitinha, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il a dit juste après le match hier soir, car vu le potentiel offensif du Bayern, à tout moment, cet écart peut être comblé. Globalement, difficile quand même d'imaginer un scénario différent mercredi prochain. Faut se préparer à un nouveau combat de boxe où les coups sont remplacés par des buts. Luis Enrique a d'ailleurs révélé une discussion avec son staff technique. Pour eux, il faudra marquer au moins 3 fois à Munich pour espérer se qualifier. C'est dire si niveau spectacle, le match retour s'annonce aussi prometteur que l'aller. Et pour ajouter de l'émotion aux supporters parisiens, ils retrouveront le stade du sacre de la saison dernière et cette finale de Ligue des Champions où déjà Paris avait marqué 5 buts à l'Inter. D'ici à mercredi, la priorité sera donnée à la récupération. Luis Enrique devrait largement faire tourner son équipe contre Lorient samedi en championnat, et on scrutera l'infirmerie. Kvaratskhelia est apparu diminué en deuxième période, et plus inquiétant, Achraf Hakimi souffrait d'une lésion musculaire en fin de match, l'empêchant de courir. Les examens du jour en diront plus sur une éventuelle indisponibilité.
Voilà, Jean-Louis Tour en direct ce matin sur RMC. On va continuer évidemment d'en parler ce matin sur RMC de cette victoire du PSG. En attendant la demi-finale retour, il y aura l'autre demi ce soir qui va opposer l'Atlético à Arsenal pour la dernière campagne européenne d'Antoine Griezmann. Mais il n'y a pas que le PSG, il y a une autre performance qui est historique ce matin.
And there is the final buzzer. Costilla Jaya Bourg-en-Bresse de l'Europe.
Vous connaissez Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est le premier sacre européen pour les basketteurs de Bourg-en-Bresse qui ont remporté l'Eurocoupe. C'est la petite coupe d'Europe au bout d'une finale pleine de suspense face aux Turcs de Beşiktaş. La salle était trop petite hier soir. Il y avait quand même 4 fan zones dans la ville, et il y a une réception, des festivités qui sont prévues à la mi-journée à Bourg-en-Bresse.
Bah, moi, je veux bien. Mais ça fait des années de journalisme où on nous dit qu'il faut dire Bourg-en-Bresse. Et l'autre, il arrive, Bourg-en-Bresse. Merci Quentin Vinet. C'est le journal de 8h, il est 8h10. Et bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
Courte nuit hein, pour Daniel.
Absolument, je vois que tout le monde n'a pas regardé le foot hier. J'étais persuadé, il y avait des gens dans une salle de basket pour voir une autre belle performance. Ouais. Mais que se passe-t-il?
C'est vrai que pas de chance pour
Bourg-en-Bresse. Moi, j'étais persuadé que le monde entier était devant le match hier.
Moi, j'étais avec vous, Daniel, avec l'after aussi. Bon, il est là ce matin. Il y a des... PSG Bayern, on se dit on va devoir le commenter, c'est une demi-finale. Et puis il y a des PSG Bayern comme celui d'hier, 5-4 pour les Parisiens au terme d'une demi-finale aller, un score jamais vu à ce stade. Écoutez les supporters.
J'ai même pas les mots, quel match historique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu là, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Hein.
C'était incroyable le scénario, on l'attendait vraiment pas, quel moment.
Alors Daniel, on a entendu tous les superlatifs, hein, le match de légende, match historique. Toi je crois que t'as vu quelques matchs de foot dans ta vie, t'avais déjà vu un truc comme ça?
Mais écoute, enfin, oui, effectivement, les superlatifs, tu peux les enfiler comme des perles. Tu ferais un très beau collier ce matin. Maintenant, je sais pas comment faire un classement. Je sais pas comment aller chercher. Et surtout, est-ce que c'est utile d'aller faire un classement? Est-ce que c'est le plus beau de l'année? Oui. Après, Ça va te paraître complètement fou, mais j'imagine que les Portugais se disent qu'il y a deux tours, le Sporting Bodø/Glimt, où ils avaient perdu 4-0 l'aller, ils ont gagné 5-0 le retour. Pour eux, ça a dû être une soirée complètement dingo. Là, en tant que spectateur neutre, parce que souvent le foot, ça va aussi avec le cœur qui bat pour une équipe, j'imagine que oui, une personne en Angleterre, en Italie, en Espagne, elle a vu un match qu'elle n'avait pas vu depuis très 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 longtemps. Maintenant, la Ligue des Champions, ces dernières années, nous a souvent fait des spectacles de ce genre-là. Là, le score 5-4, c'est vrai que c'est peu banal. Maintenant, il faut voir dans un match retour. Parce que le match retour, il y a une dimension supplémentaire qui est celle du coup près qui tombe avec un éliminé. Là, tu es à la fin de ce match, dans l'attente, est-ce que le match retour va être aussi bien? Et surtout, que va-t-il se passer? Quelle va être l'issue?
Parce
que
là, tu n'as pas l'issue. Mais bon,
là, en fait, tu as un spectacle. Mais le sport, c'est aussi une autre dimension. C'est, il y a un gagnant, il y a un perdant. Là, pour l'instant, on n'a pas le gagnant, on n'a pas le perdant encore. On sait pas l'issue. Ça se trouve, tu auras un 2-1 avec un partout pendant toute la partie. Le but décisif se marque dans les arrêts de jeu. Et ce sera encore une autre dimension émotionnelle et dramatique. Mais le match qu'on a vu ce soir.
Oui, ça, il faut bien comprendre. On est à la mi-temps, en fait.
Le match qu'on a vu ce soir, évidemment, on va s'en souvenir pendant très, très, très longtemps. Ça, c'est certain.
Hier soir, mais la nuit a été courte, Daniel.
Je sais pas, j'arrive encore à parler correctement parce que j'ai beaucoup de mal.
Clair. Est-ce que c'est le meilleur PSG de l'histoire qu'on voit en ce moment?
Dans l'histoire du PSG? Ouais. Ah oui, bien sûr.
Ça veut dire meilleur que l'année dernière?
Ah ben moi, ça fait un petit moment que je le dis que ce PSG est meilleur que celui de l'année dernière. Il est habité par une confiance qui le rend quasi invincible parce que si on se pose, on revoit le match tranquillement, il est possible qu'on trouve le Bayern quand même meilleur. Dans la maîtrise, dans le nombre d'occasions, je pense qu'on mettra bout à bout un plus grand nombre de joueurs qui ont été bons côté Bayern. Mais ce PSG, il est habité par une confiance absolument dingue. Quand il attaque, quand il est dans ses phases de transition où il récupère les ballons bas pour se projeter et pour attaquer, il a une capacité à être tranchant qui est assez sidérante. On a eu l'impression même à un moment dans le match que chaque action pouvait se transformer en but. Et ouais. Quand il y avait 5-2, Je connais ton amour pour le PSG. Je pense qu'au moment où il y a eu 5-2, dans ton canapé, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe?
On va leur remettre 7,
on va leur remettre 8. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qui va se passer?
Non, c'est vrai.
Hein, voilà, je savais. J'ai lu à distance dans tes pensées.
Alors, on a beaucoup parlé du rythme, de la fatigue des Parisiens en début de saison, après la saison dernière, le sacre, la Coupe du Monde des clubs, etc. On nous a beaucoup dit, mais vous verrez, ils seront en forme au printemps quand ce sera important. C'est le cas, là, pour le coup, on a le pari réussi d'Enrique encore.
Bah, le PSG a la particularité de pas avoir de championnat. Donc en fait, c'était clair dès le début. On savait ce qui allait se passer. La première partie jusqu'au mois de décembre, elle n'existerait pas. On aurait des équipes B, des équipes C, des mélanges. En fait, tout serait fait pour que physiquement les joueurs soient prêts dans la deuxième partie de saison. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont fait, ils ont inventé un nouveau concept. C'est la prépa à l'envers, en fait. Ils ont préparé au mois de janvier, février, pour être au top maintenant. Je sais pas, c'est pas forcément dû à l'entraîneur, c'est les circonstances qui ont fait que le PSG d'abord a la possibilité de faire ça, parce qu'elle a pas de rival dans le championnat, parce que les matchs elle peut les gagner même avec une équipe B en Ligue 1, donc ça lui permet de tout préparer physiquement pour être prêt maintenant quoi.
Merci Daniel, il y a une petite sieste de prévue.
Ouais, parce que mine de rien, ce soir, on a encore une demi-finale de Ligue des Champions. Et demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même très, très bien.
Hein. Oui, soirée spéciale. Deuxième demi-finale.
Allez, la Ligue des Champions. Mine de rien.
À 21h, il y a Atlético Madrid et Arsenal. Suivi de l'afterfoot, des nuits du Casar enchaîné. Ça, c'est jusqu'à 1h30. Ah. Et effectivement, on n'oublie pas Strasbourg contre le Rayo Vallecano.
Absolument.
En demi-finale de Ligue Europa Conférence. On a de la chance.
On est chargé en ce moment.
En Coupe d'Europe. Exactement. On a un très, très beau mois d'avril, début mai. Bonne journée, Daniel. Il est 8h15 sur RMC et RMC Story.
Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour Mathieu Béliard. Welcome everybody, all the friends on RMC. Car ce matin, on part chez vous Mathieu. Oui. Je vous emmène à les États-Unis. Le roi Charles III est en visite officielle pour 4 jours. Le roi Charles, il est chez vous. Et le FBI est évidemment sur les dents. Mais bon, heureusement, si un tireur vise à nouveau Donald Trump, il pourra s'abriter derrière les oreilles de Charles III. Ça fait des boucliers pour toute la famille. Oh, merci Dumbo. Trump va être très attentif à la sécurité. Oh, votre majesté, votre épouse aussi a été victime d'un attentat. Camilla, non, non. Oh,
suis-je bête ? L'accident du pont de l'Alma, c'est pour ça. Mais non, même pas ! Et vous n'êtes pas venu avec votre frère, le Prince Andrew ? Great boy, I love that boy, Prince Andrew, great boy. Je l'ai souvent croisé chez mon ami Jeffrey. Oui, je sais. J'avais un cadeau pour lui. Tant pis, Jennifer, tu peux retourner au lycée, Andrew ne viendra pas. Et les deux dirigeants vont évidemment parler de l'Iran. Parce que, c'est la guerre là-bas, Mathieu.
Ah ouais ?
C'est la guerre. It is war. Oh yes. Ah yes. Oh là là. What a story. What a story. Up there. It's war. Et l'Iran menace de couper les câbles internet qui sont au fond de la mer dans le détroit d'Hormuz. Alors, la guerre avait commencé avec des menaces nucléaires quand même. Hein. Après, les Mollahs, ils ont fait une réunion budget. Ils se sont dit, bon, en fait, on va plutôt bloquer les bateaux. Et maintenant, on en est à... Je vais te couper Internet. En fait, le nouvel Ayatollah, c'est ma mère. C'est quand j'avais 18 ans, c'était pareil. T'arrêtes d'embêter ton frère ou je te coupe Internet. Et on ne pouvait plus télécharger des photos de Sarah Michelle Gellar. Hein, Mathieu ? Hein, Victor ? Eh oui. En tout cas, aux Philippines et au Mali, ils doivent être en PLS. Oh non, pas Internet ! Comment on va faire pour arnaquer des boumeuses occidentales ? Pendant qu'à Nice, il y a Catherine, 67 ans, qui dit « Mais je comprends pas, Brad Pitt a arrêté de m'écrire. J'espère qu'il va bien. Je m'apprêtais à lui envoyer 50 000 euros pour son hospitalisation. J'espère que ça va. » Victor, il est très perturbé par Sarah Michelle Gellar.
Mais c'est pas ma génération.
Il ne voit pas qui c'est.
Buffy
et les vampires.
Je suis avec vous, Arnaud, là-dessus.
En fait, on a vieilli, on s'en rend pas compte.
Buffy contre les vampires.
Oui. Pardon. Oh, ça va. Je suis pas le seul à avoir pas
de matin. Attention, c'est le masque et la plume. Le gouvernement a décidé de renommer les EHPAD, ils s'appelleront désormais Maison France Autonomie.
Et oui, parce qu'en fait, ce qui n'allait pas dans les EHPAD, c'était le nom. Voilà. Donc voilà, ce sera toujours aussi cher pour trop peu de place, les gens seront toujours mal nourris et maltraités, mais ce sera plus joli de dire « Les enfants, c'est dimanche, on va voir mamie à la Maison France Autonomie. Mais mamie, elle est morte. » Ah bon ? T'es sûr ? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été la voir. Macron, il va être fier de son truc, vous avez vu ? On a remplacé le mot « dépendance » par le mot « autonomie » et le problème est réglé. Merci qui ? Merci France Président. Allez bien France Brigitte, on va France manger dans un France nourriture. Tiens, mets France Radio. Radio France, tu veux dire ? Oui, oh, France Musique, pour écouter France Gall. Alors c'est McKinsey qui a trouvé le nom. Les gars, on doit livrer une propale de rebranding pour les EHPAD. La marque a perdu 76% de positive opinions depuis Orpea. Alors je veux un effet waouh, ok ? Pas de bullshit, je veux qu'on pense à l'expérience client. Mike ?
Oui, alors eh bien, écoute Mike, j'en parlais encore à Mike hier, pour donner vraiment le côté personnes âgées, on suggérait France 3.
Non, ok, c'est disruptif, on a le ressenti. Très bien, j'envoie la facture. On prend quoi, 30 millions ? Alors, il y a un autre changement de nom à prévoir. La Poste va devenir France Courrier. Le Tour de France va devenir France Dopage. Le Bois de Boulogne va devenir France Brésil. Le Trésor Public va devenir France Raquette, comme Roland Garros. Et allez, France Béliard, on enchaîne.
Une pétition qui demande l'annulation de la tournée de concert de Patrick Bruel suite à des accusations de violence sexuelle.
Oui, la pétition a été lancé il y a quelques jours, et Brigitte Macron n'a toujours pas traité les féministes de sale conne.
Ouais.
Je pense qu'à l'Élysée, on fait tout pour lui cacher l'info, en fait, par peur du dérapage. Elle essaye de regarder l'actualité. Emmanuel, il y a Internet qui marche plus, il n'y a même pas la 4G. Ah oui, oh là là, quelle histoire ça aussi. Tu sais qu'on est passé chez SFR. Ah bon, d'accord, okay. Tu me passes Voici ? Pourquoi Voici ? Tu veux pas lire plutôt Santé Magazine, hein ? Ou Notre Temps ? Regarde, il y a Cyril Ferraud en couverture. Tu l'aimes bien, Cyril Ferraud ? Oh, ça va ! Alors, avec cette histoire de Patrick Bruel, tout le monde se planque dans le showbiz, hein, de peur de voir ressortir les vieux dossiers. Vianney, il s'est enfermé dans une cabane en bois. C'est pas pour composer un album, hein, qu'il est dans la forêt. C'est par peur d'un MeToo. Parce que, au catéchan, j'avais 16 ans. Un jour, j'ai bu un demi-kir. Alors, j'étais un peu pompé. J'ai demandé un baiser à Maud. Mais c'était sans être marié, comme le veut le Seigneur Jésus. Et puis, je vis avec ma honte. Alors, je fais de la menuiserie. Ça, c'est les chevilles de 14. Oui, bah, remets-toi, c'est gras. Oh là là.
Ah. Bravo, allez, Arnaud Demanche. Merci, Arnaud. Arnaud, qu'on retrouve tous les jours. Et en podcast, quand on le veut, hein, à tout moment de la journée, de la nuit, sur l'application RMC, sur scène, par exemple, le 14 mai à Paris, au solo.
Eh ouais.
Et en solo?
Non, pas non en solo.
Ah, ok, d'accord.
Duo. Mais c'est bien aussi.
J'ai cru que ça tomberait juste. Et non. Et puis raté.
Mais non, mais ça fait un joli rebond.
8h24 sur RMC, RMC Story. Dans un instant, le face-à-face sur RMC BFM TV, Marie Chantrey qui reçoit Sébastien Chenu, le vice-président du RN, député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie, il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes, je le rappelle, vice-président du RN, député du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de sujets à aborder ce matin, mais je le disais, ces résultats de Total qui viennent à l'instant de tomber, des résultats du premier trimestre avec un bénéfice net en très très forte hausse, 5,4 milliards de dollars, soit plus d'un milliard de dollars de profit en plus sur un an, en partie grâce à la crise au Moyen-Orient et un cours du brut, on le sait, qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que vous considérez, au vu de ces chiffres ce matin, Sébastien Chenu, que Total fait aussi partie de ces profiteurs de guerre que vous dénoncez?
Bah, ceux qui font du profit sont les marchés financiers. En réalité, plus que les pétroliers, encore davantage, ce sont les marchés qui, avec les fluctuations du pétrole aujourd'hui, sont les marchés sont eux les profiteurs de cette crise-là.
Et de fait, fait profiter.
Et de façon, j'allais dire en seconde main, les pétroliers eux-mêmes. Mais sur les pétroliers, il y a une capacité à pouvoir faire bouger un certain nombre de lignes. Mais sur les marchés financiers, on voit bien que eux, ce sont les premiers qui en profitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait des mesures qui soient structurelles. Sinon, évidemment, les choses sont très déséquilibrées. Les consommateurs payent ces augmentations à la pompe et puis se retrouvent sans compensation ou sans possibilité de pouvoir remplir leur voiture de carburant.
Et on connaît ces mesures structurelles de la part du RN. Vous le réclamez depuis de nombreuses semaines. La baisse de la TVA, ça, on va en parler. Oui. Mais quand vous voyez ces chiffres, encore une fois, avec un patron de Total, Patrick Pouyanné, qui encore ces derniers jours alerté sur les risques de pénurie, un gouvernement qui le tense en disant en gros, vous sortez un peu de votre rôle. Est-ce que vous dites finalement, peut-être qu'un geste patriotique de la part de Total est à venir, quand on voit encore une fois des chiffres très impressionnants?
Non mais on peut contrôler des marges, ou on peut évidemment le faire sur un temps, j'allais dire relativement court, parce que attention, si on le fait sur un temps beaucoup trop long, on importe le pétrole, on aura des effets pervers sur les importations. Donc on peut demander effectivement un geste patriotique à un moment aux pétroliers. On peut évidemment avoir quelques obligations sur le déstockage, notamment du pétrole au bénéfice du marché intérieur à un prix qui soit acceptable, c'est-à-dire pas le prix du marché, mais le prix du stockage du pétrole lorsqu'ils l'ont acheté. Ça, on peut le faire, mais attention, comme on importe beaucoup de pétrole, à ne pas se retrouver dans des difficultés, évidemment, d'approvisionnement. C'est la raison pour laquelle nous, on pense que ce sont des mesures structurelles qu'il faut initier pour le pays. Mesures structurelles qui sont sincèrement initiées par tous les autres pays européens, avec différentes formes.
Certains y sont revenus, mais... et avec un coût pour nos finances publiques. Aujourd'hui, le gouvernement le dit, que nous ne pouvons pas assumer. La baisse de la TVA que vous prenez, c'est 12 milliards d'euros par an. Aujourd'hui,
on peut y venir.
Sébastien Lecornu dit que ce n'est pas possible. Juste sur la mesure structurelle, juste s'arrêter sur Total. Raffineur, industriel, ça c'est une partie de son métier, j'ai envie de dire entre guillemets, mais aussi distributeur. Il a pris des mesures, il y a quelques semaines, en plafonnant les prix. Est-ce que finalement, quand vous voyez, encore une fois, pardonnez-moi, j'y reviens, sur ses super profits, il s'est acheté une bonne conduite?
Oui, mais enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est du bricolage. La réalité, par exemple, voyez-vous, une mesure qui aurait été une mesure à longue échéance, ce serait un investissement sur le raffinage. Mmh. On a très peu de raffineries en France. On aurait des investissements sur le raffinage et sur les raffineries. Ça, ce serait des mesures structurelles à longue échéance. Ce qu'il fait, c'est du bricolage, en réalité, monsieur Lecornu. Mais surtout, il n'a pas d'idée. Il laisse les Français à l'abandon.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Bah, sur ce qu'a fait Total il y a quelques semaines. Les distributeurs, à la pompe, on l'a vu, dans leur station.
C'est un prix d'appel, de toute
c'est
façon.
C'est un prix d'appel.
C'est un prix d'appel. Donc, de toute façon, évidemment.
Peut-être anticipant de très bons résultats et en disant, regardez, on a fait ce geste-là.
Évidemment, nous ne sommes dupes de rien. Mais derrière, c'est à l'État, aujourd'hui de prendre des mesures structurelles. Les pétroliers, de toute façon, c'est un prix d'appel pour les supermarchés, c'est un prix d'appel pour les grandes surfaces que celui de l'essence. Donc de toute façon, on sait très bien tout ça. Mais l'État, lui, doit prendre des mesures structurelles au bénéfice des Français.
Vous les
pétroliers,
croyez pas,
ils ne travaillent pas au bénéfice des Français.
Vous ne croyez pas, Sébastien Lecornu, quand il dit « nos finances publiques ne permettent pas, notamment, d'adopter la mesure que vous prenez, cette baisse de la TVA à 5,5 environ, pour un coût important, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Hier à l'Assemblée, vous étiez sans doute dans ses rangs, il y a eu cette question d'un de vos députés, la réponse du ministre de l'Économie qui a parlé de misérabilisme de votre part, d'exagération, de contre-vérité totale, en disant en gros à votre député, travaillez un peu, considérant que cette mesure est totalement inapplicable.
Là. Roland Lescure parle de misérabilisme lorsque nos députés, c'était Édouard Jordan, nouveau député de l'Aude, qui a succédé à celui qui est maintenant maire de Carcassonne, Christophe Barthès, lui a parlé effectivement de notre proposition de baisser la TVA. Le ministre de l'Économie dit, vous faites du misérabilisme. Enfin, sincèrement, les Français qui bossent, qui ont besoin de leur voiture, qui remplissent leur réservoir tous les jours pour aller travailler, c'est pas du misérabilisme, c'est la vie réelle. Alors je veux bien qu'en Macronie, on regarde tout ça de haut avec beaucoup de mépris, mais nous on essaye de trouver des idées concrètes pour faire avancer les choses.
Ce qu'on vous reproche sur cette mesure de la baisse de la TVA, c'est que ça concernerait des millions, tous les Français.
Et
on pointe du doigt par ces Français pas modestes, justement, qui peuvent se payer un 4x4, un SUV, et qui vont en week-end à la campagne.
C'est pas parce qu'il y a une minorité de Français qui se payent un 4x4 ou un SUV qu'on ne va pas prendre une mesure qui touche une immense majorité des Français qui, eux, roulent avec des voitures beaucoup plus modestes.
On peut vous opposer aussi,
cet argument, il est ridicule.
On peut vous opposer aussi, Sébastien Chenu, le fait qu'on ne peut pas décider seul. La France devrait demander l'accord des pays européens.
Elle
ne peut pas fonctionner.
J'y viens. On a déjà passé, ça a déjà été effectué, les baisses de TVA ont déjà été effectuées dans l'Union Européenne, ça s'est déjà fait. Il y a un certain nombre de pays qui l'ont déjà fait. Donc faut arrêter de nous dire que ce n'est pas possible. Moi ce que je vois, c'est un gouvernement qui est impuissant, qui a zéro idée. La dernière idée qu'ils aient eue, c'était sincèrement faire un prêt aux entreprises pour payer leur essence. Enfin, je ne sais pas si on peut faire plus ridicule en matière de logique économique, un prêt qui va être remboursé avec des intérêts. Donc en fait les entreprises vont payer des intérêts pour se payer de l'essence.
Mais
donc,
des aides ciblées aussi,
donc, au secours.
Près de 3 millions de travailleurs modestes.
Ça coûte très cher d'ailleurs. Ça coûte très cher des aides ciblées et ça ne résout rien. Est-ce qu'on va se dire que dans notre pays, on peut avoir des mesures structurelles à court, moyen, long terme comme nous les proposons? Nous, ça fait longtemps qu'on propose cette baisse de la TVA. C'est pas sorti avec la crise actuelle au Moyen-Orient. C'était déjà dans le programme de Marine Le Pen en 2022. Baisse de la TVA, baisse de la TICPE. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, nous, on propose une mesure qui, dans le temps, puisse être amortie aussi. Vous dites, ça coûte très cher. Ça coûte 1 milliard d'euros par mois, c'est-à-dire 12 milliards d'euros par an, à peu près.
En effet, ça a été chiffré.
C'est une mesure.
Et par des instituts et par le gouvernement.
Voilà, c'est une mesure qui est tout à fait possible, acceptable, entendable, supportable par l'État, à condition, évidemment, que l'État fasse des économies ailleurs. Or, moi, je vois dans le projet de budget que nous avons commencé à étudier en début de semaine à l'Assemblée nationale, il y a encore une hausse, 0,2%, des dépenses. Donc, évidemment, tant que le gouvernement ne baisse pas la dépense publique ailleurs, eh bien, ça ne peut pas profiter aux Français.
Donc, à ceux qui vous disent démagogie, impossibilisme, de mettre en place, vous dites, faites des économies ailleurs.
Ce sont des choix à faire. Nous, on considère qu'il y a des choix à faire en matière d'économie ailleurs, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les médicales d'État, que ce soit les agences d'État, que ce soit les aides sociales. On a déjà proposé dans un plan d'économie des milliards d'euros d'économie.
Et
bénéficiera à qui ? Aux classes populaires, aux Français qui ont besoin de leur voiture.
Et ce sera sans doute l'objet, évidemment, de votre programme pour la présidentielle. Sébastien Chenu, j'y viens, parce que la présidentielle 2027, vous avez cette petite formule, tout le monde y pense. Cette expression est peut-être encore un peu plus vraie dans votre parti. Quand on voit notamment les déclarations de Marine Le Pen, votre patronne hier à nos confrères de l'AFP, elle sait déjà qui elle veut affronter. Et je dois dire, personnellement, que j'ai été un peu surprise par ces déclarations. Elle le dit, je souhaite un second tour face au Bloc central. Elle va même un peu plus loin s'ils arrivent à avoir un candidat commun. Dans cette configuration, Édouard Philippe a un certain nombre de qualités mathématiques. Je la cite, c'est de l'adoubement ou de la pure stratégie politique. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire en dessinant Édouard Philippe?
Marine Le Pen a toujours cette forme de sincérité qu'on peut lui reconnaître, c'est-à-dire qu'elle dit « je préfère gagner sur le choix que sur le rejet ». Face à Jean-Luc Mélenchon, ce serait une élection qui se construirait sur le rejet. Le rejet de Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la violence, l'homme de l'antisémitisme, l'homme qui fait peur, l'homme qui ruinerait le pays. Donc ce serait une élection sur le rejet. Face à Édouard Philippe, qui est le plus madré, le plus expérimenté des candidats du Bloc central, ce serait une élection de choix. Vous savez, Édouard Philippe, c'est
mais une élection beaucoup plus compliquée aussi. Vous comprenez mon étonnement et ma surprise. C'est-à-dire que les derniers sondages, notamment quand Jordan Bardella est testé, Jordan Bardella est défait face à Édouard Philippe.
C'est pas la difficulté.
Sondage un an avant la présidentielle.
C'est pas la difficulté qui nous fait peur en ce qui nous concerne. Moi, je pense que Édouard Philippe, c'est le fiasco avec l'air sérieux. Mmh. Si vous voulez, c'est l'air sérieux de l'ancien Premier ministre, mais dont le bilan est un fiasco total. Baisse de la croissance, hausse de la CSG, les 80 km/h, les gilets jaunes, la retraite à 67
ans. Donc vous dites même pas peur face à Édouard Philippe, même si les sondages vous donnent perdant face au second tour face à lui.
Aucune peur, vous mais surtout la capacité pour les Français de choisir réellement deux programmes qui soient très différents, deux programmes de société, et puis effectivement la capacité pour les Français de juger un homme qui a déjà un bilan. Édouard Philippe, on l'a vu aller en Algérie, ne rien demander à Tebboune les deux fois où il l'a rencontré.
Donc c'est quoi, c'est plus excitant? Juste, je vais vous poser la question. C'est quoi clair. Stratégie politique
c'est
aussi.
Est-ce
qu'il y a une forme de baiser de la mort en fait? On a envie de dire.
Non mais c'est plus clair parce que derrière, il faut aussi avoir une majorité pour gouverner. Et nous pensons que lorsque les choix sont clairs, lorsque les Français s'expriment dans la clarté, pas dans le bidouillage, on se souvient les bidouillages du Bloc central pour gagner lors de la dissolution, eh bien ensuite, c'est plus... non pas facile, c'est jamais facile de mener une politique, mais c'est plus clair, c'est plus transparent pour les Français de savoir où on va. Au moins, il n'y a pas tromperie sur la marchandise lorsque vous avez le choix entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. On sait ce que chacun propose, alors qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est automatiquement tout de suite le rejet.
Et trop facile du coup.
Pas trop facile, rien n'est jamais facile
le
en
parti,
politique.
Votre parti se met en ordre de bataille. Vous confirmez l'information du Figaro, vous avez trouvé vos nouveaux locaux pour la campagne, votre nouveau siège de fête.
Oui, on est en train de s'organiser, que ce soit des locaux, que ce soit un programme présidentiel, que ce soit de nouvelles propositions aussi, en plus de celles que nous portons depuis longtemps, non seulement lors des élections, mais aussi à l'Assemblée nationale.
Que ce soit aussi un prêt
Bardella.
Auprès des banques, qui semblent toujours aussi compliqué à contracter pour le parti Rassemblement National.
Oui,
il y a un problème démocratique de votre point de vue.
C'est le moins qu'on puisse dire. J'entendais d'ailleurs le président de la Fédération Française des Banques ce matin qui disait que c'est quand même un problème effectivement que les banques ne prêtent pas au Rassemblement National.
Mais vous semblez ne pas être le seul parti concerné par cette difficulté.
Eh bien, c'est un problème aussi si c'est le cas pour les autres. La démocratie, ça a un coût. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait indiqué qu'il créerait la banque de la démocratie. Évidemment, encore une promesse enterrée.
Ça n'est pas allé au bout, en effet.
Qui peut accepter que le premier parti de France, en nombre d'adhérents, en nombre de parlementaires, en score aux dernières élections, en sondage aux prochaines élections, ne puisse pas se financer, être financé? Sincèrement, c'est totalement indécent
mais
dans une démocratie comme la France.
Un an avant l'élection, vos sentiments, prédictions disent que vous pourrez un jour signer avec une banque française ou vous allez devoir vous tourner vers des banques étrangères?
Aujourd'hui, nous faisons le tour des banques françaises, c'est la priorité. Et nous espérons bien qu'une banque française contribuera au jeu démocratique. Mais d'ailleurs, moi je dis à Monsieur Philippe, à Monsieur Attal, qui se gargarisent toujours de grands mots, de grandes déclarations sur la démocratie, c'est à eux de demander aux banques françaises de financer tous les candidats aux élections présidentielles
qu'ils pèsent aussi avec vous pour obtenir ces...
Mais c'est leur boulot, c'est eux qui ont la main d'ailleurs,
le message est passé.
Attal et Philippe, c'est les deux faces d'une même pièce, la face gauche, la face droite, c'est les mêmes en réalité. D'un côté c'est le fiasco d'Édouard Philippe, de l'autre côté c'est Oliver Twist, mais c'est les mêmes en réalité.
Ah, vous c'est Oliver Twist, pour Marine Le Pen hier c'était Cosette, à chacun son expression du matin. Marine Le Pen qui hier aussi à nos confrères de l'AFP tacle violemment Bruno Retailleau, candidat déclaré Les Républicains à la présidentielle. Ce sera le Zemmour de 2027. Monsieur Plus, son pari pour le patron des Républicains qui va se radicaliser. Un bilan à Beauvau juste pathétique. Franchement, c'est quoi de tirer ce tel portrait? Vous y voyez une menace ou pas du tout?
Non, mais Monsieur Retailleau, c'est surtout une illusion. Quand il a été aux responsabilités, comme il dit souvent, comme ministre de l'Intérieur, son bilan, effectivement, est pathétique. Et surtout, il a validé les logiques macronistes, notamment les hausses d'impôts. Je vous rappelle que lorsqu'il était ministre du gouvernement, il y avait 30 milliards de hausses d'impôts dans le budget. Donc, si vous voulez, c'est la crédibilité ramenée à zéro. Donc, effectivement, Monsieur Retailleau, il va devoir brasser du vent pour essayer d'exister. Donc, non seulement il ne nous fait pas peur, mais c'est le vote inutile par excellence, le vote Bruno Retailleau.
Mais vous partagez...
électeurs, voter directement pour le candidat du Rassemblement
mais
national.
Justement, parce que vous partagez un certain nombre de diagnostics, notamment vis-à-vis de notre relation avec avec l'Algérie. Ces propos du président de la République qui ont fait réagir, d'ailleurs il s'est senti directement visé, l'ancien ministre de l'Intérieur, ces maboules qui veulent se fâcher avec avec l'Algérie. Ces propos vous ont choqué de la part du chef de l'État ?
Oui, parce que en fait, le chef de l'État dénonce souvent des postures ou des positions de ses adversaires, mais lui, il s'exprime désormais comme Donald Trump. On connaissait son mépris, sa capacité à insulter ses adversaires politiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la forme qui est choquante, l'expression du président de la République.
Il y a insulte, maboule, c'est oui, pas non plus.
L'expression du président de la République ne convient pas à son statut, mais surtout sur le fond, on peut ouvrir ce débat. Est-ce que des médecins étrangers doivent pouvoir effectivement passer un diplôme, un contrôle, une validation dans l'ordre des médecins pour exercer en France? Nous pensons que oui.
Vous pensez que oui, mais vous dites aussi que on a besoin de ces médecins étrangers hors Union européenne pour venir travailler sur notre sol.
Non, on a surtout besoin de fabriquer des médecins en France. C'est-à-dire que depuis des années, on nous dit qu'il y a des secteurs en tension. Le monde médical en fait partie. Et depuis des années, on demande à des gens venus du bout du monde de venir exercer ici. Fabriquons des médecins en France et nous n'aurons plus ce genre de problème. D'ailleurs, je vous le dis, ces pays dont nous importons des médecins finiront par nous en vouloir, de leur prendre quelque part leur cerveau, leur énergie, etc. Fabriquons des médecins ici. Ça va faire 10 ans qu'Emmanuel Macron
donc
est président de la République.
Là-dessus,
on ne forme toujours pas 10 000 médecins par an.
Là-dessus, Sébastien Chenu, sur ce diagnostic, vous le partagez avec l'ancien ministre de l'Intérieur, mais force est de constater que à Beauvau, sa stratégie du bras de fer avec l'Algérie n'a pas fonctionné. Et on apprend dans le même temps que Laurent Nunez, son remplaçant, a réussi à renouer un dialogue avec l'Algérie. On apprend aussi que les expulsions de la France vers l'Algérie ont redémarré ces dernières semaines.
Écoutez, madame.
Certes, non, prudemment, madame, et pas dans un nombre significatif, mais il y a eu de nouvelles expulsions et des laissez-passer consulaires délivrés par l'Algérie.
Combien de laissez-passer consulaires depuis le mois de janvier? Combien de laissez-passer consulaires ont été délivrés?
Pour le moment, le chiffre n'est pas rendu public.
Mais c'est, parce que ce chiffre, je vous le dis, madame,
mais entre zéro,
il est ridicule.
Oui, mais entre zéro et peut-être ridicule, ce que vous considérez comme ridicule.
Ça a repris. Non, mais madame,
est-ce que
c'est
ce n'est pas finalement la technique,
madame,
qui fonctionne?
C'est de l'ordre du symbolique. C'est ridicule. La réalité, c'est que lorsque Boualem Sansal est libéré, c'est parce que c'est l'Allemagne, la diplomatie allemande, qui a fait pression et qui parle. La réalité, c'est que Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a manqué tous les arbitrages sur l'Algérie. Il n'a pas été soutenu une seule fois. Il n'y a pas de bras de fer avec l'Algérie. On le sait, et Emmanuel Macron, à travers son expression,
nous dit... Il faut tout couper. Il faut couper toutes nos relations.
Il s'agit pas
vous
de
savez
couper.
Qu'en fait, c'est impossible.
Il ne s'agit pas de couper, il s'agit d'avoir un bras de fer. C'est-à-dire que si vous ne reprenez pas vos ressortissants qui sont des délinquants, vous n'aurez pas de visa. Ça, c'est la première des choses. Jamais ce bras de fer n'a été tenté.
Sébastien
Emmanuel
Chenu.
Macron nous le dit, il ne le tentera pas.
Sébastien Chenu, on arrive à la dernière minute de cet entretien. Une question sur ce rapport. Charles Alloncle, très très discuté, très très commenté. Après 4 mois de travaux sous tension, les députés de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement, le financement de l'audiovisuel public va pouvoir être rendu public autour du 4 mai, je crois. Vous félicitez de cette nouvelle et par ailleurs, est-ce que vous considérez que ce qui a déjà été rendu public, fuité dans la presse comme on dit, va suffisamment loin ou pas ?
Bon, d'abord, ce qui est important, c'est de voir que enfin ce rapport peut être édité, présenté, rendu public. J'ai vu que la gauche voulait absolument l'empêcher, voulait le censurer. C'est quand même des drôles de pratiques à gauche que de vouloir et que d'imaginer que le service public leur appartient et d'empêcher que la lumière soit faite et que
ça aurait été un scandale qu'il n'ait pas.
Ça aurait été un scandale total. Parce que pourquoi ? On parle de problèmes de neutralité, on parle de problèmes de conflit d'intérêts, on parle de problèmes de gabegie financière. Il faut que tout soit sur la table. Quand je vois d'ailleurs que de l'autre côté, vous avez les dirigeants de France Télévisions qui sont prêts à faire des procès à des humoristes, je veux dire.
Quand on voit les propos, en l'occurrence, de l'humoriste Patrick Sébastien à l'encontre de Delphine Ernotte,
je suis favorable à ce que la France jamais ne fasse de procès à des humoristes.
Mais vous voulez aller plus loin. Vous avez lancé une pétition pour privatiser le service public. Ça fait partie de la seconde étape.
Ça, c'est, je veux dire, l'étage supérieur. D'abord, il y a un certain nombre de préconisations. On va les découvrir. Moi, je ne les connais pas, mais qui sont peut-être des préconisations anti-pantouflage, des préconisations qui permettraient d'assainir les finances publiques de France Télévisions. Il faut aller vers cela. Puis ensuite, nous irons vers une privatisation partielle. C'est ce que nous proposons.
Si vous arrivez évidemment au pouvoir.
Absolument.
Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantré, c'était le Face à Face. Vous restez bien sur RMC dans quelques toutes petites secondes. C'est Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, à tout de suite.
RMC,
Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Sébastien Chenu était l'invité du Face à Face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Et Marine Le Pen voulait réagir à cette interview.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à... Écoutez, à tous les maboules. Non, pas de procès, pas de procès. De sang. Sébastien Chenu, Monsieur Chenu a de l'humour, vous le savez. C'est Patrick Sébastien Chenu. Vous l'avez remarqué, Monsieur Macron, nous l'avons tous noté, c'est permis avec beaucoup, je dois le dire, de trivialité, de traiter de maboules les patriotes, qui, tous ceux qui veulent durcir les relations avec l'Algérie. Mais pardonnez-moi, mais je trouve ce langage insultant, qui n'est pas digne, pardon, d'un chef de l'État.
Mais vous vous êtes senti visé ?
Tout à fait, mais monsieur de Malherbe, j'assume totalement, parce que si c'est être maboule que de penser que les Algériens sont un danger pour la France, alors oui, je suis maboule. Si c'est être maboule de dire que les Algériens viennent chez nous pour nous voler notre argent, nos travails, nos femmes et nos traditions, alors oui, je revendique ma maboulitude.
Merci Madame Le Pen. Et tout de suite on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour Mathieu. Ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la voix est encore plus forte que l'augmentation des carburants. C'est parti pour les titres. Pour permettre un accord de paix entre Washington et Téhéran, Vladimir Poutine s'est proposé d'accueillir les 400 kilos d'uranium enrichi détenus par les Iraniens. C'est comme si pour protéger des enfants victimes de violence, les prêtres de Beit Haram se proposaient de les accueillir. Et puis après 144 ans de travaux, 144 ans de travaux, la cathédrale de Barcelone est enfin terminée, battant ainsi le record des travaux les plus longs jusqu'alors détenus par Paris avec Anne Hidalgo. Le livre de Gabriel Attal intitulé Un homme libre est sorti la semaine dernière. Philippe de Villiers souhaitait réagir.
Gabriel Attal, dans son livre, disons plutôt son torchon, dévoile ses ambitions présidentielles sans nous épargner aucun détail de son intimité, en particulier de sa vie de couple avec son compagnon et son désir d'avoir des enfants grâce à la gestation pour autrui. Pardon. Je dis pardon. Mais on va où là? Arrêtez la débauche, on a déjà été servi. Sarkozy, divorcé, un homme divorcé à l'Élysée. Macron, pas fichu de procréer. Sans parler à l'inverse de l'ayatollah Hollande avec son harem, ses 12 femmes et ses 24 maîtresses. Non mais monsieur Béard. C'est bien, si je suis devenu, c'est tous les sous-fifs qui sont tous de la table. Si on laisse faire en 2027, la première dame sera quoi? Un tube à essai, c'est ça?
Merci à tous. Emmanuel Macron a attaqué, je cite, les maboules qui veulent qu'on se fâche avec l'Algérie en défendant les médecins venus des hors Union européenne. Oui. Plus du tiers viennent d'Algérie. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour à toutes et à tous, à ceux et celles et ceux, et bonjour au président, au vice-président Chenu. Écoutez, respectons ces médecins algériens qui font l'effort de venir en France, de grâce. Vous imaginez, ils étaient médecins en Algérie avec le soleil, la joie de vivre, des compatriotes jeunes, fringants, et ils font l'effort de venir en France, et pourquoi ? Pour aller faire du dépistage de cancer colorectal sur des vieux à Châteauroux ?
Ouais, vu comme ça, effectivement...
Non, mais après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être maboule aussi pour s'infliger cela.
C'est vrai qu'ils viennent souvent pratiquer dans des zones qui n'attirent pas le personnel soignant, ce qu'on appelle les déserts médicaux.
Oui, c'est là où l'on comprend réellement la réalité, la générosité de ces gens. Moi, j'y suis passé à Châteauroux, 3 heures. J'y ai passé 3 heures à Châteauroux. Et je peux vous dire qu'il y en avait déjà 2 de trop. Et je venais juste, disons-le, en touriste, entre guillemets. Alors, imaginez un peu si c'est pour examiner des mycoses sur des orteils de vieilles dames de 90 ans. Non, je vous dis, il faut être ma boule pour accepter ça, oui.
Bon, alors merci, monsieur le président. Le Parc des Princes a vécu hier soir un match d'anthologie avec pas moins de 9 buts. Le PSG a battu le Bayern de Munich 5-4. Nous sommes avec le coach parisien Luis Enrique. Bonjour. Ça a été un très grand match.
Il est où les grands matchs? Pour le public, où? Peut-
tête. Mais pour nous, c'est pas terrible. Marquer 5 buts. Moi, c'est bien, encore. Mais encaisser 4 buts. 4 buts, c'est pas bon pour nous, c'est éprouvant. Moi, entraîneur coach, et j'ai souffert. J'avais l'impression d'être entraîneur de Metz.
Vous avez gagné, c'est quand même ça qui compte, non?
Moi, c'est bien. D'accord, mais plutôt que 5-4, j'aurais préféré qu'on gagne 1-0, 5-4, 1. 5-4-1. Meilleurs, ils ont joué. Ah, ça, ils ont beaucoup joué. Mais de sans penser, beaucoup de trop d'énergie. Pourquoi? Pour un bout. Pour pas grand chose. Et en ce moment, vu le prix de l'énergie, c'est bien d'économiser. Même si c'est vrai que nous, on fait les pleins au Qatar, on a des prix.
Oui. Pour le match retour, vous le sentez comment?
Je suis à fond.
Oui, à fond derrière vos joueurs.
Non, je suis à fond, je suis à fond. Je suis à fond, il n'y a plus de bois, il y a trop gelé sur les bancs de foule. Et mais c'est comme ça, toute l'année, de toute façon, il n'y a plus de bois, il faut que je voie le rhino.
Le rhino? Quel rhino?
Le rhino pour la voix.
Ah, l'auto-rhino.
Ouais, le rhino, je ne sais pas. Je ne connais pas plus que ça. Je ne sais pas si joue l'auto, le rhino, mais je vais voir le rhino.
Merci beaucoup.
Mais c'était Louis une nouveauté pour le Karine Yari.
Ah oui, on a Louis Sénéquet.
Il aime le football. Chenu, il s'en fout. Chenu, non. Lui, il aime les humoristes. Patrick Sébastien Chenu.
Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC. Et à tout moment. En podcast, bien sûr. Dans un instant, c'est les GG, les grandes gueules. Bonjour Alain, quel est le programme?
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Les grandes gueules, ça démarre dans un instant avec Fatima Hidbounoua, la prof de français, Didier Giraud, l'agriculteur, Antoine Diers, le consultant juridique. On aura dans les GG, dans les grandes gueules, un TikToker, un homme des réseaux sociaux. Il s'appelle Christian. Et Christian, on l'appelle le justicier des réseaux sociaux, le justicier du métro. Vous savez, c'est lui qui filme les pickpockets et ensuite il les balance, c'est le cas de le dire, sur les réseaux sociaux pour qu'on les reconnaisse, qu'on fasse attention. Et puis, il les asperge de spray malodorant dans le métro même. Alors, c'est une méthode qui peut choquer. Il viendra s'en expliquer tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Et puis, on parlera du profit des, bien sûr, des pétroliers comme BP et Total. On évoquera aussi cette classe de Roubaix où un collégien a sorti un couteau parce que le prof lui avait confisqué son cahier. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.